une phrase. Notre chroniqueuse Poussa Divani est avec nous. Elle va nous faire une chronique mortelle. Enfin, en tout cas, un sujet qui lui appartient comme d'habitude. Et nous allons nous en régaler. Et Vanessa Poussadi reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Oui,
donc elle
j'espère.
Va entendre
J'ai
tout
hâte
ça.
De la découvrir.
Avec plaisir.
Alors pour l'instant, ben, on part en musique avec une chanson fort bien choisie par Nicolas. On écoute Félix Diot qui nous chante « Tarot de Marseille ».
Tu auras bien joué ton tarot de Marseille. Une allumé tes chandelles en cire d'abeille. Quand tu auras brûlé l'encens et parfumé tout l'air ambiant d'une lavande chamane, marché Coyoacán, trouvé à moitié pris, je me lèverai murmurant. Qu'est-ce que je fais ici? Quand le ciel aura jeté sa pluie et son tonnerre, il restera bien les nôtres à jeter les pieds sur terre. Moi je viens du pays du vent et toi des immeubles tremblants.
Alors, comme promis, mais nous voici avec Vanessa. Vanessa, quand tu as écrit l'art du tarot, j'avais envie de commencer avec une des phrases qui est dans ton livre, qui est une phrase d'Alessandro Jodorowsky, et qui dit « Chaque arcane est un miroir et non pas une vérité en soi. Deviens ce que tu y vois. Le tarot est un caméléon.
»
Alors, explique-nous un petit peu ce qu'on va trouver dans ce livre pour ceux qui s'y connaissent comme pour ceux qui n'y connaissent rien.
Oui, c'est important pour moi que ce livre-là, dans le fond, il parle autant aux deux, autant aux gens voilà. qui débutent totalement qu'aux personnes qui ont peut-être déjà une certaine familiarité avec le tarot, mais qui ont envie d'approfondir ou de voir le sujet autrement. Fait que le défi que je m'étais lancé, en fait, c'était vraiment de donner une voix un peu plus moderne à un art qui est sensiblement ancien. Parce que je trouvais que dans les livres que j'avais à la maison, les thèmes ou les descriptions des cartes, je les trouvais peu appropriées au monde d'aujourd'hui. Je trouvais que je me voyais pas beaucoup dans certains des sujets, puis Tu sais, le monde a tellement changé dans les dernières années avec Internet, les réseaux sociaux, notre réalité du moment. Fait que je voulais montrer en fait que les cartes, les arcanes évoluent et se transforment en même temps que la culture, que la société et que nous, parce que justement, comme le dit Jodorowsky, c'est le miroir de l'âme.
Oui.
Donc, je voulais comme le rendre un petit peu plus moderne, lui donner une petite touche un petit peu plus milléniale, on va dire.
C'est ce que t'expliques quand on parle de choix de cartes, quand des gens autour de toi te disent bah, lesquelles je dois acheter, qu'est-ce que je dois prendre, etc. C'est ce que tu expliques aussi dans le sens que le monde a changé et qu'on peut prendre des cartes qui correspondent plus aujourd'hui dans les couleurs, les dessins.
Les images, il y a des artistes qui ont fait des decks incroyables de tarot qui mettent des personnes en situation d'handicap, des personnes de toutes les couleurs. Fait que d'amener des images qui sont beaucoup plus inclusives, comme ça, non seulement ça représente le monde tel qu'il est, mais aussi ça nous aide à nous habituer, à nous familiariser avec certains corps, certaines personnes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de côtoyer toujours.
Oui, tout en gardant quand même ce qui se raconte dans le tarot de Marseille. Il y a des choses qui sont bien précises dans les dessins qui ont été faits au moment où ils ont été faits.
Oui, en gardant les symboles, exactement. Voilà. Donc, on garde les symboles, mais on l'adapte de manière à ce que ça soit un petit peu plus inclusif.
Mais moi qui ne connais pas ça, le tarot, là, c'est quoi le tarot?
C'est une maudite bonne question. C'est quoi le tarot?
Est-ce que tu as plusieurs heures devant toi?
Ben écoute, pour répondre le plus simplement que je peux, c'est un jeu de 78 cartes habituellement. Mm-hmm. Des fois, il y a des jeux qui ont 22 cartes, oui. Mais en général, on parle de 78 cartes. Puis chaque carte est composée de plusieurs images, de plusieurs symboles en fait dans l'image. On connaît beaucoup le tarot comme un outil prédictif.
Mm-hmm.
Je pense que c'est beaucoup ça que la culture populaire a mis de l'avant, mais c'est surtout un outil introspectif puis un outil d'exploration de la conscience. À la base, c'est ça, je pense que c'est devenu très sensationnalisé comme quelque chose de divinatoire. Puis mm-hmm. C'est ça. Mon but, c'est un peu de ramener ça à l'idée qu'on peut s'en servir comme un outil de croissance intérieure puis pour nourrir son jardin intérieur.
Pour que tu en fasses un livre, est-ce que tu as vu une de plus en plus une voix populaire à ça? Je veux dire, une demande pour ça?
Bien, ça va par cycle. Hein, t'sais, je pense que dans les années 90, avec la sortie du film The Craft, Magie noire, oui. Amour et magie avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, il y a eu plusieurs films Charmed aussi qui étaient télévision que les gens ont beaucoup trippé. Il y a eu comme une résurgence dans les années 90, peut-être une petite baisse dans les années 2000, mais définitivement depuis... Je dirais peut-être 7-8 ans dans le monde, peut-être plus récemment au Québec, on voit qu'il y a encore une fois un engouement. Là.
Pendant Qui parle de magie ou qui te place dans une époque où la magie existait, en tout cas elle se voyait beaucoup plus qu'aujourd'hui, etc. Ça fait partie des choses qui sont très regardées,
ouais.
En tout cas sur les réseaux comme Netflix ouais. ou autres.
Ou pendant la pandémie, les gens se sont découverts ça, peut-être, je ne sais pas.
Absolument, je pense que c'était dans l'inconnu, dans le mystère que... Puis dans la perte de repères aussi, que c'est dans ces moments-là que les gens, ils se disent « OK, mais à quoi je peux me rattacher? »
Mais c'est ça, c'est cette voie spirituelle-là aussi, mm-hmm. cette quête-là que je remarque que les gens cherchent, pas nécessairement de façon religieuse, mais une quête quelconque.
Ouais, une quête de sens. Puis mm-hmm. c'est ça, la spiritualité à la base. Puis je pense que c'est pour cette raison-là que les gens se sont... qu'il y a peut-être eu, encore une fois, une plus grande résurgence du tarot, mais même s'il y a des trends, des tendances dans la culture ou dans les médias, on va dire, je pense que c'est un sujet qui a toujours été là. T'sais, il y a toujours eu une fascination pour ça.
Est-ce que Poussadi, tu connais les images du tarot?
Non. Mais ça D'accord. fait juste penser quand tu as dit que les gens... C'est comme quand tu dis quelqu'un qui lit les lignes de la main, tout le monde présente la main hein, hein, dans une soirée.
Oui,
là.
Oui mais en fait, faut avoir ceux qui vont dire des choses comme un petit peu divinatoires. Or c'est pas ça que fait Vanessa, si j'ai bien compris. Mm-hmm. Elle cherche à expliquer tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a tellement de symboles, il y a plein de messages. Tu peux pas, tu vois une carte, tu as une impression, sauf qu'il y a tellement d'autres choses qui se disent dessus. Donc, j'aimerais ça, tout en continuant, Vanessa, qu'on tente l'expérience avec Poussadi, avec moi aussi, même si moi je connais le tarot, elle pas. Je serais curieuse de la voir, si tu le veux bien,
oui,
tirer une carte et nous dire ce qu'elle elle voit, parce qu'elle ne connaît pas, et voir ce que quelle déduction tu fais derrière pour l'aider.
Ben, absolument.
Ça. Ça serait très amusant. Enfin, c'est plus qu'amusant, parce que des fois, ton inconscient va te faire dire quelque chose qui est peut-être déjà en rapport avec la carte.
Enfin, oui. Puis je pense que c'est les gens sont souvent surpris de constater à quel point c'est vulnérabilisant aussi. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tirer les cartes sur des plateaux de télévision, par exemple. Puis les personnes, ils sont bons joueurs, ils vont piger une carte. Là, ils vont me dire ce qu'ils voient, je leur parle de la carte, etc. Puis ça reste assez surface, mais dès que la caméra arrête de tourner, le livre s'ouvre. Et quand t'as dit telle affaire, ça me fait penser, j'ai une séparation, je me dis nanana, mais évidemment, ils veulent pas le dire devant la caméra, tu sais.
Est-ce que tu acceptes de jouer
le
jeu?
Ben oui, là, il n'y a pas de caméra, fait qu'il n'y a pas de souci, moi, je vais
livre ouvert. Mais le micro reste ouvert, mais tu dis ce que tu veux. Alors, on te laisse, tu vas tirer une carte, et puis tu vas nous dire ce que tu vois à travers cette carte, cette image, puisque tu les as jamais vues, en plus. C'est à rouge, mais...
Non, pas du tout. Regarde, Nicolas, surveille.
C'est d'autant plus intéressant.
Il y en a une qui me parlait, là, celle-là.
Ouais, on y va intuitivement. On choisit sans trop réfléchir. Donc, qu'est-ce que tu as pigé comme carte?
Queen of Cups. C'est-tu
la
Cups?
Reine de coupe.
Ah, coupe de café, là, je pensais.
Ou la Diva Cups, comme tu veux.
C'est moins mon genre.
Alors, c'est dans les arcanes qu'on appelle mineurs.
Ah, ouais. Okay.
Voilà, il y a les arcanes majeurs et puis il y a les arcanes mineurs.
Mm-hmm. Fait que si tu regardes la carte, c'est quoi l'image ou les symboles dans la carte qui attirent le plus ton attention?
Ben, j'avais l'impression qu'en haut de la chaise de trône, c'est un coquillage.
Mmh. Oui, définitivement. Puis... Mm-hmm.
Puis on voit la mer, on voit que c'est posé sur des pierres, il y a quelque chose, un socle, il y a quelque chose de solide, puis à la fois, il y a le sable qui peut s'enliser. Mm-hmm. Et puis, on voit comme... Moi, je vois comme une pointe d'une... Pas d'une falaise, mais ça tombe dans l'eau, là.
Mm-hmm. La première chose que je dis aux gens pour lire une carte, mon truc premier, c'est de dire à voix haute les faits observables. Donc, qu'est-ce que tu observes de la carte? Puis déjà là, souvent, on a tendance à bloquer quand on lit une carte, on ne sait pas comment. Fait que juste de faire rouler le moteur en lisant la carte objectivement.
Puis je vois le visage de la reine en question qui a un air qui fronce, il y a de la colère.
Mm.
Et puis je vois, c'est ça, cette coupe là, qu'elle tient. Là. Mais je vois de la colère, je ne vois pas quelque chose d'apaisé.
C'est intéressant que tu l'aperçoives comme ça, parce qu'encore là, c'est un miroir de l'âme. Donc, je ne dis pas que tu es colère ou colère ou pas apaisée en ce moment. Sauf que, de manière générale, les reines, parce qu'il y en a quatre dans un tarot, ça suggère en fait un besoin d'introspection, un besoin de retourner dans sa caverne, dans son lieu interne, dans son refuge, son sanctuaire, pour écouter davantage ton intuition. Parce que les reines, ce sont des figures qui sont sages, qui sont très intuitives, mais ont besoin d'être en contact avec leur intuition. Puis quand on parle de la reine de coupe, c'est la reine qui est associée à l'élément de l'eau. Mmh. Par hasard, c'est quoi ton signe astrologique? Je suis curieuse.
C'est lion.
T'es lion. Fait que t'es du feu, toi.
Oui. Puis je sais même pas nager, en plus. Je sais même pas dans l'eau.
Inquiète pas, je vais pas te dire que c'est ton temps d'arriver.
Je vais me noyer.
Mais une chose que je trouvais importante de faire avec le livre, c'était dans mes descriptions des cartes, de pas juste donner des indications quant à la signification de la carte, mais de donner des questions pour que les cartes soient pas une finalité, mais soit une invitation à créer des réflexions puis à t'amener à te poser des questions. Fait que les questions qui sont associées à la reine de coupe, c'est quelles émotions sont extrêmement palpables ces temps-ci. Parce que définitivement, c'est une carte qui t'invite à plonger dans la sphère des émotions puis à être dans l'observation puis l'accueil de tes émotions. Puis souvent, avec les... Tu sais, on dit, ben oui, les émotions, on en a toutes, c'est bien beau.
Oui, oui.
Mais il y a des gens que leurs émotions, c'est fâché, content, triste, ambigu. Tu sais, c'est les couleurs primaires. Mais avec la reine de coupe, on est chez Benjamin Moore, tu comprends?
Oui, oui, palette.
La palette, toutes les petites teintes, le rose saumon, le turquoise.
Les nuances.
Toutes les nuances d'émotions. Donc, l'autre question, qui dois-je écouter et à qui dois-je offrir mon aide? Parce que c'est une figure très empathique qui veut être présente pour les autres puis qui veut offrir ses conseils, son amour et sa présence aux autres lorsqu'ils en ont besoin. Suis-je en train de m'oublier afin d'aider les autres? Parce que dans son désir d'aider, souvent la reine de coupe peut avoir tendance à se sacrifier elle-même.
Ou elle se coupe elle-même?
Ou elle se coupe de... Ben oui, de exactement. Comment puis-je revenir à moi afin de laisser place à mes propres émotions? Fait que de ne pas fuir en essayant d'aider les autres, mais vraiment de se laisser le temps de ressentir. Et finalement, dans cette situation, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Donc, de voir, est-ce que c'est les émotions de telle personne que je suis en train de ressentir? Est-ce que je suis tellement sensible que j'ai pris sur mes épaules des émotions qui ne m'appartiennent pas? Ou est-ce que vraiment c'est mon intégrité émotive ici?
Intéressant.
Y a-t-il une des questions, quelque chose qui t'a comme accroché?
Bien, ce que tu dis, des choses qui ne m'appartiennent pas, ça, je fais jamais ça.
OK.
Parce que dans la vie, je voyage léger. Alors ça me rejoint moins.
OK.
Mais je comprends que c'est une phase où c'est vrai que je suis beaucoup d'empathie, puis c'est dans la sélection des propos qui ben de l'aide que les gens ont besoin de moi, là, tu sais, que je dois choisir. Et c'est ce que je fais, je fais le tri là-dedans. Puis comme je te disais hors micro tantôt, j'essaie de rester dans mon chemin de lumière qui, là, moi, me guide toujours. Tu sais, quand tu es toujours éclairé par cette lampe intérieure, là, tu vois plus clair tout le temps. Mais c'est ça, ne pas s'oublier à travers ça, donc se couper, là. Je le vois, là, son air, c'est comme... Mais elle a l'air fâchée, là, et celle-là.
Moi, je la vois plus comme perplexe.
Ah oui, c'est parce qu'elle a la moue, la bouche qui tend vers le bas aussi.
Ça se pourrait, ça se pourrait. Je la vois pas bien.
Oui.
Alors, voilà. Donc, on la redonne.
Ben... Ah, ouais. C'était vraiment intéressant.
Mais oui, c'est intéressant.
C'est comme une passe, c'est vrai, là. Oui. Tu sais, c'est...
T'as raison pour sa moue.
Hein?
J'avais même pas porté attention à ça.
Tu vois? Elle va te les faire lire autrement.
Ben oui, tout le monde, chaque fois que tu les tiens
chaque
au cœur,
chaque fois. On va parler, avant que je vais le faire aussi, je vais m'y prêter aussi. Avant, il y avait une des questions que j'ai lues dans ton livre et que je trouve bien parce que j'en pense la même chose aussi. C'est, doit-on lire les cartes inversées? Parce que du moment où tu tires des cartes, la carte n'est pas tout de suite dans le bon sens. Tu dois de la remettre dans le bon sens. Moi, je fais partie aussi des gens qui ne tiennent pas compte de ça.
Cool.
Je ne tiens pas compte de ça parce que je considère que le message est là, inversé.
On
n'est
pas beaucoup dans notre gang.
Oui, on n'est pas beaucoup, c'est ça. Donc, j'étais très agréablement surprise de voir que tu étais dans le même...
Dans le même bateau.
Dans le même bateau, dans la même optique. Et je trouvais ça très bien. Voilà.
Oui, bien, je pense que souvent, surtout quand les gens débutent, c'est tellement... Tu sais, je pense qu'il y a tellement d'histoires puis de règles qu'on entend ici et là, puis on a l'impression qu'il faut toutes les accepter sans les questionner. Puis, pour moi, c'est important de dire aux gens, il n'y a pas d'autorité du tarot. Tu l'utilises de la manière que tu veux, puis si toi, tu ressens que la carte inversée, ça complexifie au point que ça bloque ton intuition... Ben, revire là de bord. Puis il y a déjà assez de symboles dans une carte pour que tu en aies la signification.
Oui.
Est-ce qu'on peut en tirer une autre dans ce temps-là, si elle ne nous plaît pas? Est-ce qu'on peut en tirer une autre?
Ah non, non, parce qu'elle a toujours, elle a toujours un message pour toi. Ah, okay. C'est simplement le sens dans lequel tu le tires quand tu la remets. Alors, offre-moi deux, parce que je travaille...
Tu connais ça, toi?
Ben, moi, je connais les tarots, mais qu'avec les cartes majeures, donc jusqu'au 22, et je n'ai jamais tiré de cartes
mineures, comme moi j'ai fait.
Donc, ça va me faire plaisir de le faire. Attends, hop, si jamais j'arrive à la... Ben alors là,
les hiérophants, très intéressant, qui est la carte qui est associée au signe du taureau. Tu es taureau.
Et c'est mon signe.
Ah oui, ouais.
C'est une carte super intéressante, les hiérophants, je trouve. Je ne sais pas c'est quoi ton impression de cette carte-là ou comment tu la conçois.
Moi, je la conçois comme... pas, parce que là, c'est marqué hiérophant, mais pour moi, c'est marqué pape. C'est le pape. Dans les majeurs, et c'est quelqu'un qui est protecteur.
Ok.
Voilà, c'est quelqu'un qui bénit, et quand on dit bénir, c'est donner la bonne parole.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que la parole ne soit pas... c'est ce que j'essaye de faire dans la vie tous les jours, mais c'est très difficile. Que la parole soit toujours bonne.
Bienveillante.
Tu vois, bienveillante. Ouais. Voilà, je le vois comme un personnage bienveillant. En même temps, il y a ces colonnes. Donc, c'est un personnage qui est assis sur un trône avec deux colonnes de chaque côté, comme pour exprimer l'importance du personnage. Mm-hmm. Devant lui, deux autres personnages un petit peu plus bas sont là et dans la main gauche, il a le sceptre et dans la main droite qu'il lève, il lève comme pour bénir ces personnages-là. Il a la couleur rouge, la couleur du fer, mais du fer pas F-E-R, mais F-A-I-R-E, faire les choses, avancer. Donc, moi, ça me dit, vas-y, fais, arrête de parler, acte.
Je trouve ça intéressant.
Que je peux voir de
voilà,
quoi,
vas-y.
Okay. Tu me demandais hors micro tantôt quelle carte me faisait m'ont fait le plus travailler, avec lesquels j'ai eu de la résistance. Le Hiérophant, ça en fait
d'accord.
partie un peu.
Okay.
Parce qu'à la base, c'est sûr, dépendamment de nos expériences, de nos vies, on a des biais avec certaines cartes. Donc, par exemple, le pape, dépendamment de notre relation à la religion, par exemple, on peut avoir vraiment une relation très différente avec la carte du Hiérophant.
Oui.
Donc, c'est sûr que moi, quand je vois pape, ce à quoi je pense, c'est pas nécessairement la figure bienveillante de prime abord.
D'accord.
Sauf que, en même temps, quand je me dis, c'est la carte qui est associée au signe du taureau. C'est le protecteur des mystères. C'est lui qui a le savoir des mystères, qui est le pont entre le divin et les humains, le mortel.
Oui.
Donc, il y a quelque chose de profond. Tu sais, si on creuse derrière les idées un peu préconçues ou notre expérience, justement, qu'on retourne vers le symbole à la base, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à ça. Donc, oui, ça nous parle des dogmes, ça nous parle des traditions, mais je le vois beaucoup comme une carte qui est associée aux ancêtres aussi.
Oui, c'est ça.
Ceux qui passent le mystère, qui font le pont entre les différentes générations. Donc, c'est une... Finalement, j'ai fait la paix avec cette carte-là, définitivement.
Moi, elle m'explique tout ce qu'on est ancré dans nos cellules avec tous les souvenirs de ceux qui ont été là avant, qui font partie de nous et qui font que nos agissements sont ce qu'ils sont parce que ça fait aussi partie de nous. Bon, ce serait bien long d'en
dire plus là-dessus. Le mantra que j'ai associé à cette carte-là, c'est « Je m'inspire de la sagesse des anciens pour faire le pont entre moi et le divin. »
Ah ouais, écoute, c'est très beau, j'ai gagné ma journée.
J'ai gagné ma journée. Fait que c'est aussi l'idée de s'inspirer de courants spirituels qui sont peut-être un peu plus officiels.
En même temps, tu parles de pape, mais je trouve qu'il a l'air asiatique avec sa couronne. Thaïlandais, Asie du Sud-Est, Cambodge.
Là, il a l'antenne, tu vois, pour être en lien avec le haut.
Ouais.
Ah, on pourrait continuer à en parler longtemps, mais en tout cas, c'est drôle parce que cette carte fait partie des cartes majeures que je connais bien.
Ouais.
Et j'ai pas tiré une carte mineure. Mais merci beaucoup. Ça sera peut-être pour une prochaine fois.
Merci, Vanessa.
Alors là, on va partir en musique et puis Vanessa, tu vas rester avec nous pour la chronique de Poussadi, puis on verra selon la chronique si on peut reparler, puis ça, il n'empêche de mêler l'idée du tarot avec la chronique de Poussadi. Et là, on va écouter Mara Tremblay qui nous chante « Toutes les chances ».
Comme j'aime quand tu te penches sur moi, ça me donne l'impression de m'envoler un peu vers un espace-temps où on est si heureux et où l'amour peut enfin vivre pour de vrai. Je passe mon temps à penser à toi, beaucoup trop de temps pour beaucoup trop y croire. J'ai toutes les chances d'échapper mon cœur. Chemin sur mon dos, que tu suis en silence du bout de tes doigts, et quand ça recommence, et puis tes yeux, et puis ton cœur rendu si loin déjà. Je passe mon temps à penser à toi, beaucoup trop de temps pour beaucoup trop y croire. J'ai toutes les chances d'échapper mon cœur. Comme j'aime quand tu entres dans ma vie et des caresses des nuages de ton lit. Tu as touché mon cœur, tu as touché mon corps. Vers toi je tremble plus à chaque pas. Je passe ce mental à penser à toi. Beaucoup trop de temps pour beaucoup trop y croire. J'ai toutes les chances d'échapper mon cœur.
Et voilà, donc je n'ai plus qu'à vous dire restez avec nous parce qu'on va arriver au moment de la chronique de Poussadi. Et puis Vanessa, bah, tu vas entendre ce que fait Poussadi et tu vas voir, tu vas pouvoir remettre ça à ta sauce et lui répondre. Ça va nous faire plaisir. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Alors Miel, ce qui nous chantait « Prends-moi comme la mort ». On dit merci à Nicolas d'avoir choisi les chansons qui vous correspondent, les filles, chaque fois pour vos discours. Alors on écoute ta chronique, Poussadi. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Moi, je vais vous parler d'une rencontre que j'ai eue il y a 2 semaines. C'était une belle rencontre. J'étais encore émue, puis il m'a dit une phrase que je vais vous partager tout à l'heure. Et que je vais...
Il, c'est donc un monsieur.
Oui, c'est ça, monsieur, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, c'est un abbé. C'est un prêtre que j'ai rencontré il y a 2 semaines. Il s'appelle l'abbé Claude Paradis. Il porte tellement bien son nom. Ce prêtre, en fait, célèbre les funérailles des itinérants et des corps non réclamés chaque année.
Oh, wow!
À
ça,
l'automne. Alors, ils sont 200-300 que lui, tu sais, décide de faire une célébration en leur honneur pour leur offrir, justement... c'est un souvenir, en fait, une mémoire, qu'on puisse garder leur mémoire. Et puis, écoute, quand je l'ai vu arriver, tatoué, des bagues, perfecto, j'étais là, oh mon Dieu Seigneur. Mais vraiment, là, j'étais comme wow, charmée, là, par la personne. Et c'est vraiment, quand il m'a dit, abbé Claude, parce que je dis, oh, m'arrêtez de me niaiser, là, c'est pas vrai, là. Mais non, mais c'est, j'ai adoré cet homme tout de suite. Et puis, c'est ça, puis avec des discussions, on a échangé, puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper des gens de la rue, tu sais? Ben donc, lui a été lui-même. Il a fait partie de la gang, tu sais, comme il dit, là. Donc, il a erré. Et puis là, je vous lis un petit peu son parcours, là, parce que j'ai lu ça dernièrement, puis je trouvais ça intéressant, parce que la façon dont c'était amené, c'est que il était complètement dans les bas-fonds. Puis là, il se promenait, puis c'est un soir où il a tenté de faire plusieurs thérapies, ça n'avait rien donné. Puis à sa dernière tentative, il a quitté la maison de thérapie, puis il est allé finir sa journée dans le bar. Puis là, justement, plus tard dans cette journée-là, il a erré dans une ruelle, puis là, il s'est trouvé face à face avec une vieille église. Puis là, il a décidé, par instinct, d'aller se réfugier dans cette église-là. Et puis cette église-là se trouve sur Sainte-Catherine. C'est l'église Notre-Dame de Lourdes, à côté de l'UQAM.
Ah oui,
tu sais, Émilie Gamelin, l'autre côté de Biais. Et puis vraiment, en rentrant, là, il y a comme eu une révélation là, divin. Tu sais, c'est drôle hein, quand on parle dans la vie, tu es dans des circonstances, c'est arrivé à ce moment-là de sa vie où il s'est dit, ah non, ça y est, c'est ça, cet appel-là. Et puis, il y a comme, mon Dieu, Dieu s'est comme révélé à lui, comme il dit. Puis il y a tenu une grâce spéciale de guérison totale et instantanée de sa toxicomanie. Pour lui, là, Dieu lui a redonné sa dignité. Alors, il a fait son cours et puis, je pense qu'à un moment donné, il y a un jeune homme de 18 ans qui, quand il a été ordonné prêtre, qui lui a dit, j'aimerais ça que tu viennes me voir à l'hôpital Saint-Luc, là. Il a 18 ans, il est en phase terminale d'un cancer. Et puis là, l'abbé décide de aller lui rendre visite. Et puis Olivier, c'est un jeune homme qui avait été accueilli dans 12 familles d'accueil. Imagine, il avait 18 ans, là.
Oh my God.
Fait qu'il y en avait du vécu.
Dieu n'est pas resté longtemps dans chaque, hein?
Non, c'est ça. Fait que lui, là, il n'avait pas connu la confiance ni la fidélité humaine. Alors, il a dit à l'abbé Pierre Paradis, à Claude Paradis, il a dit, écoutez, moi, il n'y a jamais personne qui me regardait vivre. Voudrais-tu au moins me regarder mourir?
Aïe, j'ai des frissons
partout. Ouais, moi aussi, ça a tellement résonné.
C'est fort.
Puis il lui a demandé aussi, il y a beaucoup d'autres de mes amis qui sont dans la rue. Voudrais-tu t'occuper d'eux? Puis là, lui, ça a été là où il venait de recevoir sa mission.
Oh my God.
Et il a su ce qu'il avait à faire. Fabuleux,
écoute, c'est depuis ce jour-là que lui, il dit, moi, j'apporte le Christ dans la rue, là, Dieu dans la rue. Fait que moi, j'ai été en admiration devant ce monsieur-là. Puis là, tous les jours, le matin, il va à son bureau. Puis c'est ça, lui, dans la rue, il rencontre tous les gens. Il parle à tout le monde, il connaît. Là, il me parlait, il me disait que les jeunes sont de plus en plus jeunes à faire de la prostitution parce que les clients les veulent de plus en plus jeunes, tu sais.
Quelle horreur.
Oui, alors, tu sais, c'est difficile. Puis il dit des fois, là, ça prend même pas de temps. Il les reconnaît plus, les jeunes qui arrivent des régions, qui s'installent dans les rues, tu sais, parce qu'il n'y a pas de ressources, tu sais, ils n'ont pas d'argent, les appartements, tout ça, là, tu sais, c'est nous, en quelque part, aussi, qui contribuons à ça, comme dans les revues, les images, c'est nous, là, on a toute notre part de responsabilité, quelque part, veut pas, là, mais c'est ça, puis, et lui, ben, écoute, il chemine avec ça, puis moi, j'ai trouvé ça fantastique, ce volet-là funéraire, moi, qui me touche la mort, d'avoir, tu sais, de donner cette dignité-là à des gens qui ont vécu dans la rue, mais qu'on n'a peut-être pas connu, qu'on n'a pas porté de regard, comme ce jeune-là qui dit, il n'y a personne qui m'a regardé vivre, là, tu sais.
Mais tu vois, ça, c'est un humain qui incarne parfaitement l'archétype du hiérophant.
Mmh.
C'est,
oui.
C'est de passer ce savoir-là, d'aider les gens à marcher sur le pont vers le divin, puis à faire la transition vers la prochaine étape de leur existence.
Puis la façon dont il le fait, c'est avec toute son authenticité, c'est ça que j'aime.
Avec son humanité.
Oui, puis que ça soit juste son look. Tu sais, je pense que c'est pas du tout cette image-là quand tu dis que moi, je représente l'Église. C'est pas ça que j'ai en tête, là.
Oui.
Puis, tu sais, c'est ça. J'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui parce que je trouve que sa mission, elle est particulière et puis elle est inspirante.
Oui, tout à fait.
Et puis, c'est ça. Donc, moi, j'encourage les gens qui veulent donner à sa fondation, Notre-Dame de la Rue, là. Et puis, vraiment, il y a d'autres projets qui s'en viennent, là, parce que... Bien évidemment, il y a des donateurs, donc il y a des idées qui sont proposées. Il y a des gens qui disent, bon, finalement, il y a quelqu'un qui décide de prendre en main ce projet. Tu sais, ce projet des jeunes dans la rue, on en parle aussi, les Autochtones, là, ça, c'est un fléau aussi. Mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent qu'ils n'ont pas la même notion de temps, par rapport au temps, par rapport à l'argent. Tu sais, ils n'ont pas la même notion que nous. Fait qu'on ne peut pas les amener en thérapie comme pour des Occidentaux.
Dans tous ces cas-là, pour moi, un sujet qui revient beaucoup, c'est le lien à la spiritualité.
Oui.
Justement, cet homme-là, Claude Paradis, a retrouvé sa dignité avec un moment de grâce où est-ce qu'il a connecté avec le divin. Les personnes autochtones, on les a coupées de leur spiritualité, on les a interdits de la pratiquer. Donc, c'est de leur donner l'opportunité de reconnecter avec une spiritualité, avec une culture qui leur est propre dans leur processus de guérison.
Mais donc, c'est ça. Donc, il faudrait avoir des gens qui ont, comme toi, cette sensibilité-là, ou comme Claude Paradis, à l'écoute. C'est beau que la ville donne octroie des budgets, là, mettons, pour l'itinérance, mais encore faut-il le faire avec la communauté, mais de façon adéquate, là.
Mm-hmm.
Mais je sais pas, c'est sûr qu'ils doivent travailler dans ce sens-là, mais encore plus, davantage.
Oui.
Puis, mais en tout cas, moi, j'ai été touchée. J'ose espérer, un jour, moi, mon rêve, c'est d'avoir un cimetière.
Ah ouais.
Mais pas en fait un cimetière, une forêt de morts. Et puis pour moi, j'aimerais justement avoir un Claude Paradis, une section où ça serait comme un sentier des souvenirs en mémoire de ces gens-là. T'sais.
Oui.
Alors je me souhaite ça, je lance ça dans l'univers. Vanessa,
c'est magnifique.
Dans l'univers.
Je vais te faire un rituel, quelque chose, pour que ça se manifeste.
Oui, c'est ça, parce c'est que
magnifique.
Je trouve que on est tous
idée.
Là aussi où on arrive, nous aussi, puis que tout le monde puisse avoir une fin digne.
Ouais.
Puis qu'un jour aussi, tout le volet, justement, funéraire, devienne, comme la naissance, un service essentiel.
Ouais.
Donc, l'État, tu sais, débourserait.
Et d'accorder une importance à ce passage-là, tout comme on accorde une importance à la naissance, mais autre que d'une manière qui est tellement... capitaliste, tu sais.
Oui, mais je vais faire une petite confidence. Moi, Joséphine Bacon, elle m'a dit un jour une phrase, mais que ça m'a tout de suite touchée. Elle m'a dit, Poussadi, tu as compris la beauté des départs.
Fait que là, c'est... J'étais en train d'y penser.
Alors,
c'était festif quand tu parlais des naissances.
Ouais.
Dis, c'est festif aussi.
Alors, c'est ça qu'elle a vu en moi que j'avais même pas vu moi-même. Puis tu vois, il a fallu une inou pour me faire réaliser ça. Puis tu vois, c'est son rapport à la spiritualité qui elle est beaucoup plus connectée que peut-être là, la majorité d'entre nous. Là,
oui, absolument. Mais c'est ça, c'est ce beau côté de la chose. Ben, on continue à en parler pour l'instant, on va partir en musique. Donc je te laisse annoncer la chanson, Nicolas.
Bien sûr, donc ça va être Of Monsters and Men, un groupe que j'adore beaucoup, et la chanson Mountain Sound.
So I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your horses now.
Sleep until the sun goes down.
Sleep until the sun goes down. Through the woods we ride.
some scratches that made me wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the
Alors voilà, on revient en ligne avec ça. Ben on va en parler aussi au micro avec nos auditrices et auditeurs. C'était tout l'intérêt de savoir parler de la mort de façon passionnante, intense, je dirais même avec amour, avant que ce soit le moment du départ. Voilà.
Beaucoup d'amour.
Oui.
Je pense qu'on peut trouver un apaisement à travers ça. Je pense qu'il faut... Je sais pas, j'arrête pas de toujours prendre l'exemple de on prend 3 mois, tu sais, à magasiner une voiture, puis pour notre mort et ceux de nos proches, on prend même pas le temps d'y réfléchir.
Mais est-ce qu'on nous laisse le temps?
Mais pourquoi? Non, je pense qu'on le prend pas le temps.
Parce que des fois, beaucoup sont... sont dans l'urgence, oui, il faut l'enterrer là maintenant, il faut préparer quelque chose, vite, vite, vite. Pourquoi vite, vite, vite? Qu'est-ce qui a donné cette idée, ce sentiment-là?
Non, mais c'est pour ça qu'il faut le préparer d'avance.
Oui, il faut l'apprivoiser aussi soi-même, cette idée-là.
Puis quand tu l'as préparé, tu sais ce que la personne a vu pour son départ, tout est apaisé. Moi, là, pendant la pandémie, le nombre d'appels que j'ai reçus, puis ça dit, oh, on vit une perte, est-ce que tu... Des gens que je connaissais même pas, puis moi, je me rendais au cimetière, je les aidais, j'essayais de mettre mes couleurs avec, tu sais, ma façon. Oui. D'aborder ça, puis ils étaient tellement contents parce qu'ils savaient pas que faire, t'sais. Ils savaient pas comment aller, parce que moi, c'est ça qui m'a traumatisée, c'est quand ma grand-mère est décédée, j'ai dû m'occuper de ses funérailles, j'avais 20 quelques années, et puis j'ai pas été guidée. Si j'avais été dans mon pays natal, j'aurais une aînée qui m'aurait accompagnée, le village au complet.
C'est ça.
Mais là, j'étais tout seule devant le Walmart de cercueil, puis je me suis dit, bon, elle m'a tout donné, je prends un cercueil à 15 000, une urne à 5 000, après ça, j'avais plus d'argent pour la célébration, fait que je fais quoi? Je vis avec ça? Puis c'est sûr que c'est traumatisant.
C'est ça, parce que des fois, on peut aussi, d'enterrer très vite, on peut aussi prendre le temps, prendre quelques jours de plus. Il y a des gens qui laissent aussi, tu nous l'avais expliqué,
non, mais
d'ailleurs,
avec avec ce niveau-là, ça je comprends. Ça, que dans notre société, ça aussi, j'aimerais un jour qu'on soit à un autre niveau, parce que quand on dit que tu passes une vie à aimer quelqu'un, puis à ton emploi, il te donne 3 jours pour l'oublier,
oui.
Ça fait, c'est un non-sens. Il faudrait que ça soit reconnu
c'est
aussi comme
aussi.
Un congé, là, tu sais. Alors ça, éventuellement, je souhaiterais. Là, mais bon, écoute, il faut avoir plusieurs militants, hein, on se comprend, pour adhérer à la cause, puis dire qu'il faut faire des changements.
Oui, tu as dit quelque chose un peu plus tôt, Arlette, que tu parlais de... comment, hors micro, t'as dit que le tarot, toutes les cartes étaient remplies d'amour. Mm. Puis il y a une des cartes qui est la carte de la mort. La carte de la mort existe dans le tarot. Puis je pense qu'en utilisant le tarot, en méditant sur cet arcane-là, c'est une manière d'apprivoiser aussi le sujet, de se questionner mm-hmm. sur la perte, sur le deuil, la régénération, puis sur ce processus-là qu'on essaie tant d'éviter ou oui. de ne pas réfléchir, tu sais, puis de le faire justement avec amour, avec mm-hmm. douceur, en étant accompagné par des symboles, des images, des textes aussi oui. qui nous viennent de différentes philosophies, de différents aînés. Donc, il y a quelque chose de oui. très riche.
Toutes les manières dont différents peuples abordent la mort et... Mm-hmm. Et c'est ça que Poussadi a donné, enfin pour moi, à travers ses chroniques, c'est ce regard-là de dire « arrête de mettre sous le tapis, j'en veux pas, c'est pas parce que tu vas en parler que ça va venir ». On a comme une espèce de je sais pas, de petit troll ridicule qui dit « attention, si t'en parles, ça va venir ». Non, c'est pas ça, c'est de la superstition, mais en même temps...
Mais c'est sûr, ça va venir.
Oui, non, on sait pas quand,
ça peut venir à n'importe quel moment. Non, ouais, mais je veux dire, le fait de préparer, certaines peuvent te dire que le fait de ne veulent pas en parler parce qu'ils ne veulent pas l'attirer trop vite.
Mais le vide donne le vertige. Ouais. Tu sais, oui. C'est de ne pas savoir. C'est comme on ne veut pas se l'imaginer parce que c'est trop vertigineux, mais on peut faire face à cet inconfort-là puis trouver des pistes de réflexion.
Oui, parce que ça fait partie de la souffrance. Tu sais. Ouais. Parce que les gens, c'est la peur de perdre un être cher, c'est la peur de souffrir aussi quand, pour sa propre mort.
Pour celui qui reste, parce que des fois, celui qui part, il a besoin de s'en aller.
Mais c'est un reflet de notre société là, où on est individualiste, on est centré sur nous. C'est pour ça que la mort, c'est supposé unir. Mm. Puis des fois, ça désunit. Puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'on soit tous ensemble par rapport à ce sujet-là, que tout le monde soit ouvert, puis qu'on puisse justement le démocratiser, parce que j'aimerais qu'on passe davantage d'une mort solitaire à une mort plus solidaire.
Ouais, je pense qu'il n'y a rien qui me fait plus de peine quand mm-hmm. j'entends des personnes dont un de mes parents, il dit « Ah, ça coûte trop cher des funérailles, je veux pas qu'on
en fasse. » Puis je mets ça dans l'eau.
Ouais, c'est ça. Je veux pas que vous fassiez ça, cassez-vous pas la tête. Puis dans ma tête, je suis comme... Mais là, c'est pas pour toi qu'on fait des funérailles, c'est pour nous autres qui restons. T'sais.
Mais être enterré au pied d'un arbre, servir aux insectes, faire quelque chose pour la terre et en même temps savoir que mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants après viendront autour de cet arbre s'amuser oui. tout en sachant que je suis là.
C'est juste la réglementation au Québec qui est très difficile. Donc ça aussi, ouais. c'est là d'où ça part de faire des changements, aussi. Tout à fait.
Mais en tant que sorcière, moi j'adore les rituels. Les rituels font partie de ma vie. Fait que ce type de rituel-là, j'y tiens. Il y en a qui voient juste une question d'argent ou de complexité. Moi, j'y vois des actions symboliques super importantes dans le processus de deuil.
Parce que c'est quand même sacré, là, c'est ça.
Ultra sacré.
Mais c'est juste parce que ce qu'on entend, ce que l'offre qu'il y a présentement dans le volet funéraire, c'est parce que ça ne nous ressemble pas.
Non.
Alors, c'est pour ça que les gens sont réticents. Et quand on parle de la mort, c'est souvent associé à de l'argent. L'argent n'est pas très loin, malheureusement. C'est pour ça qu'en créant le salon de la mort, je voulais que les gens viennent questionner, poser les bonnes questions aux principales concernées, parce qu'ils n'iraient pas dans une maison funéraire pour y aller questionner. Alors, c'était cette idée-là, mais je pense que le changement est difficile à opérer parce que c'est des milieux très fermés. Donc, puis quand on bouge, ben ça dérange. Mm-hmm. Alors, il faut le faire de façon, de rallier le plus de nouveaux regards avec nous. Mais ça va se faire, il y a des changements. Mm-hmm. Je me dis, c'est sûr qu'on va y arriver.
Mais juste que tu sois là avec une chronique sur le sujet, c'est très innovateur, moi, je trouve.
Merci. On essaye de cheminer avec ça. Puis c'est Arlette, qui, grâce à elle aussi, qui me donne cette tribune-là. Puis quand je faisais des chroniques mortelles, les gens étaient comme « Oh, wow, c'est donc bien cool! »
Mais c'était tellement drôle parce qu'autour de la table, à l'époque, on pouvait rentrer plusieurs. Enfin là, ça revient. Donc les gens me disaient « Une chronique sur la mort, mais ça va être triste. » Non, pas du tout. Elle pousse à dire, c'est pas triste.
Non, mais
du
ils
tout.
Étaient aux
et on a tellement ri, on a tellement passé par tous les pays que ça donnait pas envie de mourir pour autant, mais ça donnait envie de se dire ah ben tiens, le jour où ça va être, moi j'aimerais ça.
Ouais, c'est de démystifier la mort.
C'est ça. Mais je sais pas, ce mot-là, c'est drôle, hein. Tu en parles, là, Vanessa, mais moi je dis démystifier. C'est un mythe, la mort. C'est pas mystique pour moi, là. C'est mythique, là, tu sais.
Ben, c'est mystique dans le sens que... Mystérieux. Mystique égale mystérieux, oui.
Mais donc... c'est plus défaire le mythe, là, tu sais. De... Alors, moi, c'est drôle, je suis en plus à dire démythifier. Puis là, les gens, ils me... Ah, c'est démystifié. Mais je dis toujours démythifier. Mais je m'excuse, j'ai échappé un petit verre d'eau sur le lit de Vanessa, mais j'ai déjà vite essuyé. Mais c'est ça, démythifier pour moi.
OK, j'aime ça. Défaire le mythe autour de ça, puis apprivoiser le sujet.
Oui, autrement. Tout à fait.
Ça me parle.
Donc, tu vois, tu feras partie des invités qui ont été là et aux chroniqueurs et qui ont été sous le charme aussi en disant « Ah oui, mais c'est super intéressant et
oui, c'était nécessaire. »
Et c'était nécessaire. Et c'est dans... Lorsqu'elle a créé le Salon de la mort, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, que je t'ai interviewé là-dessus. Après, je dis, bah oui, une chronique mortelle, ça serait super.
Ça serait mortelle.
Elle serait mortelle.
Ouais. Ben, elle m'a dit, je te donne carte blanche. Je dis, ben, je vais faire chronique mortelle.
Cool. J'adore.
Donc, c'était comme ça. On va partir de nouveau en musique. En tout cas, c'est bien parce que je trouve qu'entre le... je sais pas comment tu vois ça, Vanessa, mais entre le fait de parler du tarot, de parler de tous les messages qui sont donnés, puis de glisser sur la mort, sur une façon, sur les gens qui s'occupent et tout, j'ai l'impression que tout était l'un dans l'autre. C'était comme une continuité d'entrevue et non pas deux entrevues différentes.
C'est vrai, c'est voilà. Vrai.
Oui, je vois définitivement un lien, moi.
Ça donnait l'impression de rester en lien comme ça, donc tant mieux. Alors, on va partir en musique avec Catherine Durand qui nous chante Quelque chose de beau. Bah, quelque chose de beau, c'est ce qu'on vient de vivre. Allons-y.
Je tais chacun de mes bruits, je supporte le silence, j'ai le sommeil maudit, les rêves en interférence, comme un phare imprécis, je manque parfois de nuances, alors j'efface ce que je suis, et je recommence, et je pars. Je refais
Alors voilà, on est à la fin de cette entrevue. Je tiens à vous remercier toutes les deux, Vanessa DL, Poussadi Vani. Mais je vais laisser, parce que Poussadi vient régulièrement, je vais laisser à Vanessa le mot de la fin. Alors, qu'en as-tu tiré ? Il te reste quelques secondes pour nous dire, mais comment as-tu trouvé ton entrevue ? Comment s'est passé ton moment ?
Ah, c'était des belles rencontres, intéressantes. La formule de fin, tout est dans tout. On voit des synchronicités partout. C'est magnifique. Très heureuse d'avoir été avec vous.
C'est une belle rencontre, Vanessa, vraiment.
Ouais. On est contents. Donc, on rappelle ton livre qui s'appelle « L'art du tarot, lire les cartes pour prendre soin de soi », qui est très important. Merci Nicolas Wartmann pour la technique et puis merci pour les chansons qui allaient bien. Merci surtout à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Merci à toi, Poussadi. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée et moi, je vous dis à demain.
Merci.